Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Au fil des bobines, l'émission de cinéphiles sur Studiozef 91.1 FM. Aujourd'hui, émission un peu spéciale parce qu'en fait on revient, on est trois ici autour de la table et on revient du Festival de Cannes. Donc on fait une émission pour vous parler des films qu'on a vus et aimés, voilà, des films qu'on aimerait vous présenter plus tard à Cinéphile aussi, c'est pour certains. Donc je suis avec moi les personnes qui étaient à Cannes avec moi, Martine, bonjour Martine.
Bonjour.
Et Guillaume, bonjour Guillaume.
Bonjour.
c'est parfait, on va parler un petit peu un peu du festival. Moi personnellement c'est mon deuxième festival, je sais que vous avez plus de festivals derrière vous, ça commence être un peu une habitude, vous commencez à être un peu habitué. Moi je suis encore un peu dans la découverte de ce festival là. Donc on va faire un point un peu avec vous sur comment vous avez ressenti ce nouveau festival, quel était, est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait des bons crus globalement. Et aussi revenir sur deux films de la compétition qu'on a vus, à savoir déjà La Palme d'Or, Anatomie d'une chute, réalisé par Justine Triet, et Le Wim Wenders, Perfect Day, réalisé donc par Wim Wenders, qui a reçu le prix d'interprétation masculine au palmarès. On va faire un petit tour, Martine, déjà. Et comment tu as vécu ce festival cette année, est-ce que tu trouves qu'il y avait beaucoup de bons films, et qu'as-tu pensé des deux films primés dont on va parler?
Eh bien, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce palmarès, bien que nous, en fait, on ne va pas tellement voir les films de compétition, parce que ce sont des films qu'on ne programmera pas. Ils seront, en tout cas, à Blois, ils seront le bis. Mais du coup, je vous invite vraiment à aller voir le Wenders, le Korismaki et le Justine Triet et Harari, puisqu'ils étaient deux. Voilà, parce que c'est vraiment un très très bon cru, voilà. Et puis sinon, le festival, c'est toujours un peu le même. c'est pas tellement écologique, on va dire. Il y a encore des voitures qui sont comme des carrosses et qui transportent les stars. Mais bon, ça c'est dans un tout petit périmètre. Mais sinon, on est surtout allé à la quinzaine. Un peu à la critique et beaucoup à la site, parce que c'est quand même ces sélections que nous, on va soutenir. Voilà.
Oui, effectivement, aller à Cannes, c'est en fait avoir une idée de ce qui va se passer dans l'année qui vient. Donc, on n'a pas les dates de sortie, mais on a des contacts avec les distributeurs, on a des contacts avec les réalisateurs, les réalisatrices. Et puis, finalement, c'est un lieu où on nourrit nos envies. Et une des caractéristiques, par exemple, de ce festival, c'est que avec quelques soucis de billetterie qu'il y a eu cette année, on est allé voir des tas de films qu'on n'aurait pas été spontanément voir, parce qu'on savait qu'on avait un trou là et qu'on pouvait profiter pour aller voir tel film qui se libérait. Et j'étais très surpris de voir la cinématographie africaine. Donc c'est pour moi un des grands avantages de Cannes, c'est que je découvre des tas de choses que j'espère pouvoir restituer à Blois dans l'année qui vient. Et si on a l'occasion de monter un truc africain, je suis sûr que vous allez être extrêmement surpris par la vivacité et par la qualité, le bonheur et en même temps le devoir de mémoire, la relecture d'une histoire bien compliquée. Donc il y a quelque chose à faire. Merci Cannes.
Oui, moi c'est aussi pour ça que sur mes deux festivals de Cannes que j'ai fait, j'apprécie vraiment le visionnage. C'est qu'il y a énormément de films diversifiés, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de sélections à Cannes en plus de la compétition officielle. On l'a dit, il y a l'Acide, la quinzaine, des cinéastes, la semaine de la critique, un prix, un certain regard. Enfin, ça fait énormément de choses énormes et donc du coup ça brasse énormément de pays différents et je trouve qu'on a un regard, une petite fenêtre sur le cinéma du monde, un peu sur ce qui se fait dans le monde entier, et ça c'est vraiment super. Et moi j'ai trouvé que c'était un bon cru cette année, c'est un peu ce qui ressort globalement, toute sélection confondue, les gens ont été assez contents de cette sélection, enfin c'est ce que j'entends dans les retours, et je suis assez d'accord avec ça. Moi le Justine Triet, je suis tombé vraiment amoureux du film directement.
T'as chuté.
Oui, j'ai chuté, on peut dire ça. je suis pas tombé de haut, hein. Voilà. Mais et puis le Wim Wenders aussi, qui est un film magnifique, qu'il faut vraiment aller voir. Mais bon, ça, c'est des films qui passeront au lobby. Nous, on en passera d'autres, mais on en a vu d'autres également qui, je pense, pourraient passer. Et c'est pour ça qu'on va en venir tout de suite à la sélection Acide. Notamment avec le premier film qui a été vu dans cette sélection, c'est État limite de Nicolas Peduzzi, un documentaire qui parle du traitement psychiatrique. Voilà, si vous pouvez m'en dire plus, que moi je ne l'ai pas vu, mais vous l'avez vu.
Oui, alors ce film a été réalisé dans un HP parisien avec un interne, qui n'est plus un interne, un psychiatre. Il court tout le temps pour pouvoir voir les urgences, les patients. Et c'est un double portrait. Alors, c'est d'abord le portrait de ce psychiatre, mais c'est aussi le portrait d'un état limite de l'institution publique qui se trouve complètement submergée, débordée par le besoin d'aide, de patients et de moyens complètement insuffisants. On est en décalage complet. Une des scènes récurrentes qu'on voit, c'est un documentaire, c'est le psy qui sort dans l'escalier de secours pour parler avec les patients. Et c'est tellement naturel, en fait, on s'aperçoit qu'il y a plus d'espace, plus de possibilités dans cet abri provisoire que dans les chambres qui sont toutes petites et avec deux, trois patients, etc., etc. C'est un film exceptionnel par sa rigueur. C'est un film qui fait suite à Ghost Song de Peduzzi qu'on avait passé, qui était déjà un documentaire sur Houston, avec des musiciens, des enfants de bourgeois, etc., pris dans un rythme infernal et avec une recherche permanente de fric. Donc, c'est quelqu'un, Peduzzi, qui a un vrai regard, quelqu'un qui sait ce que c'est que le documentaire et qui arrive à interroger aussi comment on écrit à partir du réel, tout en faisant œuvre personnelle. Un gros coup de cœur.
Et toi, Martine, comment as-tu pensé ?
C'est un film sur l'hôpital, vu de l'intérieur. Et il n'y a pas beaucoup de films comme ça qui embrassent une question à la fois documentaire, politique. Et parce que ce médecin, docteur Abdelkader, en fait, il travaille, c'est un psychiatre de liaison, donc effectivement, il se balade beaucoup et il va souvent aux urgences. Et là, on voit un peu la réalité des urgences psychiatriques, c'est-à-dire on voit beaucoup de gens finalement qui ont fait des tentatives de suicide, des gens qui sont... On parle de la contention. Ce médecin, en fait, se pose toujours des questions. Pourquoi rester dans un système qui est en train de se déliter? Quelle est cette tarification à l'acte qui libéralise l'hôpital et qui n'est plus du tout dans la temporalité d'une consultation avec des patients, etc. Donc, il pose beaucoup de questions. On voit tout est centré sur lui. Hein. C'est quand même le médecin que l'on suit tout le temps. Mais sa réflexion est tellement intéressante et tellement juste que je trouve que c'est un document extrêmement important qu'on va certainement passer en faisant peut-être parler aussi les gens qui vivent la même chose.
Voilà. Tout à fait. Je pense que c'est un film qui aurait mérité justement d'avoir un bel accompagnement au lobbies. Voilà.
C'est prévu.
Le film suivant que j'ai pas vu non plus, parce que je suis arrivé un peu plus tard que vous, moi, sur La Croisette, c'est un autre documentaire, In the Rearview, de Marcia Camela. Alors, Martine, je viens directement vers toi, parce que moi, quand je suis arrivé au Festival de Cannes, quand je suis arrivé, il y avait encore personne qui était là, parce que vous étiez à la séance de ce film, et on est revenu complètement enchanté. Ouais. Vraiment, ça a été un gros coup de cœur, tu me l'as dit directement. Donc, je te laisse la parole sur de quoi raconte le film et pourquoi il t'a touché.
Alors, c'était effectivement le premier film à mon arrivée. C'était une bonne nouvelle. C'est un film, le réalisateur est polonais, ça se passe en Ukraine. Il travaille dans une ONG et il transporte des rapatriés du Donbass vers la Pologne, la frontière ou l'ouest de l'Ukraine. Et à partir de là, il a décidé de faire un film parce que tout ce qu'il entendait dans la voiture, ce qu'il voyait dans la voiture, c'était incroyable. Donc là, il plante sa caméra au milieu des deux sièges avant, direction des gens qui sont transportés. Et là, on entend des récits absolument incroyables. Et à travers les vitres, on voit aussi le champ de guerre qui se passe en Ukraine. Voilà.
Alors, il faut bien comprendre qu'on est au tout début du conflit. Hein. On est en mars
22. Ouais. Ouais.
Et c'est vraiment les premières évacuations. Quand la Pologne décide d'ouvrir grand les portes de ses frontières pour laisser passer les réfugiés ukrainiens.
Ouais, voilà.
Donc le réalisateur...
On est dans cette incertitude. On ne sait pas encore si les gens partent pour une semaine, deux semaines, pour toujours. On sent bien quand même, vu la dégradation de jour en jour des infrastructures, que c'est parti malheureusement pour être une guerre, pas du tout à Blitzkrieg, mais une guerre d'occupation de terrain.
Parce que du coup, le réalisateur, il a lancé ce film-là sans savoir vraiment ce qui allait se passer, quoi, parce que...
Exactement.
Ouais, ouais,
oui, parce qu'on le voit traverser, donc il change de route parce que la route, elle est minée, ou il se retrouve dans des checkpoints. Enfin, je veux dire, il y a une part aussi de hasard forcément liée à la guerre. Et... en fait, il nous raconte, donc il s'appelle Maciej Hamela, c'est un Polonais. Maciej Hamela, pardon.
Maciej Hamela, oui.
Ouais, voilà. Il raconte en fait qu'il envoyait ses images au fur et à mesure à un monteur, et parce que sinon il se retrouverait avec une densité incroyable. Et donc le montage a lieu... très peu de temps après le filmage. Et voilà. On assiste à des récits sur les séparations, sur les deuils, effectivement, sur tout ce qui touche à la guerre. Mais pas d'une façon... c'est pas comme la télé, quoi, ouais. En gros.
Là, on est vraiment dans la sobriété absolue.
Voilà.
De toute façon, il y a l'idée, dès le départ, que ce sera les récits... des évacués à l'intérieur de la voiture, et on voit le comportement par exemple d'une gamine de 6 ans qui est incapable de parler, qui reste mutique depuis 3-4 jours, qui a vu une partie de sa famille décimée, et il y a le regard d'une autre jeune fille qui doit avoir 7 ans dans la voiture, quand la jeune fille de 7 ans lui donne un petit dessin, etc. Il se passe dans les yeux de la gamine... je vais peut-être être là quand même, vivant, parmi les morts. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas de sensationnalisme avec des scènes de grosses explosions et tout. On voit des explosions, des fumées à l'arrière-plan de la voiture, in the rear window, comme dit le titre. On ne s'en approche pas. Le danger, il est autour. On est cerné par le danger. Ce n'est pas la peine. On voit au contact des visages, au contact des récits, toute la misère, et toute la violence et toutes les séparations qui suivent cette invasion.
C'est-à-dire que là, en fait, la place de la caméra est extrêmement respectueuse parce que ce cadre fixe, plan large et plan séquence, il va protéger en fait les récits des gens. On n'assiste pas à des caméras bouger, à des gros plans, etc. Tout phénomène de sensationnalisme,
voilà,
est écarté. Et donc, du coup, ça, c'est extrêmement important parce qu'on est en situation d'écoute, vraiment. Et puis, il y a un travail de son extraordinaire parce que, du coup, on entend quand même les sons de l'extérieur, on entend que c'est la guerre. Mais il met aussi une musique. Donc, travail d'image, travail de son, vraiment chapeau. Quoi.
Et puis il y a cette voix off qui n'est pas la voix off, mais tout simplement le chauffeur de ce taxi, eh bien, il est piloté à distance par des gens qui se tiennent au courant des cartes d'état-major, qui savent que s'il continue tout droit, il va arriver sur un champ qui est devenu complètement miné, sur une route qui est complètement minée, où il y a des bombardements, où il y a, etc. Et donc on entend comme une voix de GPS, attention, il faut changer de chemin, il faut repasser par là, il faut éviter telle zone, ici c'est sécurisé. Donc voilà, c'est très fort.
Bah ouais, vous m'avez donné vachement envie de le voir, vous en parlez vraiment bien. Pareil, c'est un film qui a des possibilités de passer dans notre programmation aussi, comme beaucoup des films acides de toute façon qu'on voit. Et parce que nous avons parlé de film Perfect Day de Wim Wenders, nous allons écouter une chanson de Nina Simone, Feeling Good, qu'on entend dans le film, et ça parlera à tous ceux qui ont vu le film, et vous verrez, vous verserez sûrement vos petites larmes quand vous entendrez la chanson dans le film. A tout de suite.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. New life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun. You know what I mean? Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
On termine par le dernier film acide qui a été montré. On va donc, c'est Nom de Sana Anajda, voilà, qui est un film franco-guinéen, parce qu'il a aussi une grosse part de production française, de beaucoup d'artistes qui sont français, celui qui compose la musique, la monteuse du film, ceux qui ont fait le son. Enfin, ils étaient tous là à la séance du film. C'était assez génial comme débat d'après séance. C'était vraiment super intéressant, ils étaient tous là, et le film a vraiment un côté film d'équipe. Mais bon, comme je m'avance un petit peu, le film, voilà, se passe en 1969 en Guinée. Alors que ça parle évidemment de l'indépendance de la Guinée, c'est vraiment le centre du film. Et peut-être, Guillaume, si tu peux me détailler un peu le film.
Bien, Guinée, les Portugais ont colonisé la Guinée. La Guinée est pris dans un mouvement pour son autonomie, et donc il y a une guerre contre les Portugais. Le film est construit à partir d'une fiction, mais elle récupère des tas d'images d'archives et il y a tout un traitement d'intégration des archives qui est fabuleux, avec une vraie écriture plastique, une vraie écriture musicale. On ne va pas voir le Portugal comme étant la force d'occupation dont on cherche à se libérer. Ça, c'est une réalité historique. C'est plutôt un regard d'aujourd'hui sur qu'ont fait les révolutionnaires qui étaient porteurs d'un message libérateur. Est-ce que ce sont vraiment des libérateurs? Est-ce que ce sont des gens qui peuvent conserver tout notre espoir? Que sont devenus les révolutionnaires qui aimaient plus le pouvoir? Et donc c'est une réflexion qui dépasse aussi le cadre de la décolonisation, mais qui parle bien du sentiment humain, de ces contrastes, de ces héros d'un jour qui sont les salauds de toujours. Je crois qu'on peut dire ça comme ça.
Et oui, ce qu'on peut rajouter, c'est que en fait, le réalisateur qui s'appelle Sana Nanda, il a filmé déjà en 1972 ces images dites d'archives. Et donc, il est revenu récemment pour composer avec les images d'archives sur quelque chose de plus actuel, où là, c'est carrément une fiction, hein, on est d'accord. Et donc, ça se met en écho à chaque fois, ce qui rend le film, ce qui donne au film une forme assez agréable, très esthétique. Et en plus, il y a un récit avec un mage, un esprit, voilà, l'esprit des forêts. Donc il y a plusieurs dimensions dans ce film qui n'est pas dualiste, en fait. Il n'y a pas les bons, les méchants, il n'y a pas les colons et les colonisés. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ce réalisateur, il a vraiment une force incroyable de tenir un sujet depuis si longtemps, quoi.
Oui, en fait, ça se ressent dans le film que c'est un projet qui a mûri de longue date. Parce que là, il dit qu'à un moment donné, il est sur une des archives. Il a précisé qu'à un moment donné, on voit rapidement des blessés sur des brancards, et il dit je suis un des blessés qu'on voit. Il y a des images qui sont de lui aussi. Donc tu sens le film extrêmement personnel qu'il a porté pendant des années, Et c'était très émouvant, en fait, de les retrouver, d'en parler. Il y avait quelque chose d'assez fort à la fin de la projection, où tu sens que toute l'équipe sont mis au service de cette histoire et de son histoire, quoi. Il y avait vraiment l'idée, tout le monde, de s'impliquer pour restituer le plus fidèlement possible ce qu'il a vécu, ce qu'il avait en tête, de quelle façon il voulait le montrer. C'est un film assez hors norme, en fait. On n'en voit pas souvent des films comme ça, qui ont cette forme-là, qui ont à la fois un certain classicisme dans leur narration, c'est-à-dire qu'on suit deux destins de personnages, un qui veut rejoindre l'armée et l'autre personne qui est sa femme, qui est enceinte, qui veut retrouver son mari. Donc on suit deux histoires en parallèle. Donc il y a quelque part une narration assez classique, mais qui est mise dans une forme qui ne l'est plus du tout, en fait. Donc on passe d'un genre à un autre. Comme tu dis, il y a du fantastique qui se met à intervenir dans le film qui paraît pas du tout forcé. Ça paraît en fait tellement fluide. Il a expliqué un peu les raisons de cette légende-là, ce que ça voulait dire, le réalisateur. Je ne restituerai pas parce que je ne l'expliquerai pas aussi bien que lui, mais vraiment il y a un mélange des genres en même temps qui est assez fou. Le montage est assez incroyable, vraiment, des montages comme ça j'en ai pas vu énormément, parce que, comme je dis, il y a déjà ce montage d'intrigue en parallèle qui doit déjà être très, très efficace, qui est pas simple à monter déjà, mais surtout il y a toute l'intégration de ces images d'archives au sein du récit, qui paraissent jamais de trop, qui sont toujours extrêmement bien raccordées avec ce que raconte l'image juste avant, qui fait qu'on a l'impression de voir un film riche qui se déploie de mille façons, mais en même temps, tout paraît compréhensible. On n'est jamais perdu. Donc, pour moi, c'est une force de tous les niveaux, un vrai travail d'équipe qui se ressent, et je crois que ça a été dans la salle, il y a eu beaucoup j'ai ressenti beaucoup d'émotions qui sont ont été retransmises dans la salle. Il y a une jeune dame qui a raconté qu'elle a vraiment vu tout ce que sa maman lui avait raconté, qui en avait les larmes aux yeux, et tous les ceux qui ont vu le film dans l'équipe de cinéphiles ont tous été assez bouleversés. Voilà, il y a Catherine qui est pas là aujourd'hui qui a vu le film et qui est pareil, qui était tout aussi bouleversée que nous. Donc voilà, c'est un film qu'on espère grandement vous proposer au Centre Cinéphile. Et d'en faire quelque chose dessus, parce que voilà, ça a été un énorme coup de cœur et je pense que vous pouvez tous le confirmer. Oui. On a terminé avec la sélection des films acides. Maintenant, on va parler d'un film de la quinzaine qui, on va pas se mentir, a pas plu à tout le monde, mais à Martine et moi. Martine, je sais qu'elle a beaucoup aimé, mais moi, ça a été un de mes gros coups de cœur de ce festival. C'est Agra de Kanu Bell, qui est un réalisateur indien. C'est son troisième film. Je ne connaissais pas du tout ce réalisateur. Je ne connaissais pas du tout ses deux premiers films. Il y avait le réalisateur qui était là pour présenter le film quand je l'ai vu. C'est un film qui a été très compliqué à monter, à financer, parce que le sujet du film étant principalement le patriarcat qui a lieu en Inde, et surtout, c'est là où l'axe me paraît assez intelligent, ça montre bien sûr comment les femmes subissent le patriarcat, mais aussi comment il peut aussi être nocif pour certains hommes. Et parce que c'est le cas de notre héros, du personnage principal, de Guru, qui a une vingtaine d'années, qui travaille dans un centre d'appel à Agra, donc qui est aussi le nom de la ville en Inde, qui à 24 ans n'a toujours pas connu de relations sexuelles, qui est très amoureux d'une de ses collègues et qui en fait une grosse fixette, à tel point d'en devenir vraiment dangereux et même des fois à la limite de la pathologie. Et les choses vont au fur et à mesure essayer de se régler quand il fait la rencontre d'une jeune femme propriétaire d'un cybercafé qui a un handicap qui boite et qui a pas eu beaucoup de chance avec les hommes avant lui. Et donc voilà, c'est un peu deux personnes qui vont tous les deux un peu se soigner dans cette société patriarcale qui les a tous les deux un peu bouffés de l'intérieur de façon très différente. Mais voilà, c'est un film que j'ai trouvé vraiment fort et intéressant là-dessus, parce que je trouve qu'il explore toutes les facettes de ce sujet-là, même au moment où ça doit être très dérangeant, parce que le personnage, il n'est pas tout le temps agréable à suivre. Il est des fois très problématique, mais c'est ça qui est évidemment traité. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est un film qui n'est pas très soutenu autour de les gens qui l'ont vu à Cannes. Mais Martine, tu étais avec moi pour le soutenir. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé du film ?
C'est vrai que prononcer comme ça un film sur le patriarcat en Inde, sur la détresse des femmes qui sont complètement sous la domination du mari, etc. Et puis la promiscuité aussi, parce que en Inde, il n'y a pas assez de logements, donc les gens se retrouvent en famille dans une promiscuité et donc forcément un peu une violence. Enfin, ça engendre ça aussi. Donc, dit comme ça, c'est vrai que ceux qui n'ont pas aimé le film disent « bah ça, on le sait déjà ». Bon, d'accord, on le sait déjà. mais là, ce personnage qu'on a de tous les plans, il est assez intéressant parce que c'est vrai qu'il est limite pathologique, qu'il a des hallucinations, donc il voit une femme qu'il aime en hallucination, et il est à moitié épileptique, il se masturbe en permanence, enfin, c'est un drôle de...
Il fait des crises, quoi.
Il fait des crises de violence extrêmement fortes. On voit que c'est un personnage qui, dans une famille où chacun se convoite une partie de la maison, et c'est compliqué. Puis finalement, il se soigne. Il est obligé de se soigner. Et là, on assiste à un autre versant de ce personnage qui est finalement beaucoup plus stratège qu'on pense. Et il y a des convoitises au sein de la maison. Le père s'est remarié, vit avec toutes ses femmes. Enfin bon, je ne vais pas raconter le film. Mais pourquoi il a été aimé par certains, détesté par d'autres, enfin détesté, pas forcément.
Détesté forcément, mais beaucoup de gens sont ennuyés.
Voilà, Voilà, je le défends. <J'sais
pas. rire> Merci, Martine. Mais ouais, enfin, c'est un film en tout cas que j'ai vraiment envie de. Que je défendrai toujours bec et ongles, même si peut-être qu'une majorité à cinéphiles l'aimeront pas, je ne sais pas, on n'a pas encore beaucoup montré.
C'est mais aussi voilà. comment les femmes s'arrangent oui. plus ou moins de cette situation-là, parce que la femme handicapée, exactement. Elle l'est parce qu'elle s'est fait violenter par oui. son premier mari. Comment les femmes deviennent stratèges et non pas accommodées, mais elles sont en lutte, en fait, de façon à pouvoir revendiquer leurs droits et leur pouvoir aussi.
C'est marrant que tu dises.
Même s'il est... Il est fortement annulé. Ouais.
Mais c'est marrant que tu dises ouais, que beaucoup de gens me disent ah oui, on le sait déjà. Parce que c'est presque un des propos du film, de la façon dont se comportent les femmes dans le film, c'est devenu une habitude en fait. Il y a quelque chose. Elles sont même pas spécialement dans la révolte permanente, hein. Elles sont dans comment on va. S'adapter à ça, en fait, s'adapter à ce fonctionnement-là.
Comment on va vivre quand voilà. on n'a pas de revenus, exactement. Que le mari est parti, etc. Quoi.
Ouais, ouais.
Ça... Jeu, il faut un endroit pour vivre, il faut quelqu'un qui subvienne aux besoins, etc. Tout donc elles font alliance, finalement.
Ouais. Ouais. C'est un vrai film qui parle de solidarité entre femmes, mais aussi voilà, que je trouve qu'il laisse... voilà, qu'il laisse vraiment pas les hommes tomber, parce que ce personnage-là, même s'il est extrêmement problématique, on arrive quand même à le film essaie de qu'on puisse essayer de le comprendre et de comprendre sa situation et comment il peut réussir à aller mieux en fait voilà et donc après ça sera pas sans mal, je vais pas tout raconter tout le film, mais voilà, donc c'est un film que on vous conseille fortement. Et donc c'est un peu la fin des films à Cannes qu'on a vu ensemble, mais du coup pour terminer un peu l'émission, je voulais faire un petit tour rapide sur des films dont on n'a pas parlé dans l'émission, dont vous êtes peut-être les seuls à avoir vu autour de cette table. Voilà, j'ai un petit coup de cœur de cannois dont vous voulez parler avant de nous quitter, Guillaume, puisque tu en as un.
Ah bon, moi j'en ai plusieurs, hein, honnêtement. Ouais. On n'a pas parlé de The Zone of Interest de Glaser, ouais. qui est vraiment un film
qui a eu le Grand Prix à Cannes.
Aussi indispensable, exceptionnel, d'une maîtrise formelle qui répond bien à la gravité du sujet. Comment un commandant du camp d'Auschwitz a fait carrière et avec quelle distance il avait par rapport à ce qu'il gérait, sa petite usine. Voilà, donc exceptionnel comme film. Il y a des films beaucoup plus intimistes comme Goodbye Julia, qui parle de la situation au Soudan. Donc on avait vu Talk with Trees ou Under the Trees, je ne sais plus le titre exact, mais on avait passé un film qui avait été très bien réceptionné avec beaucoup de délicatesse, un documentaire sur des cinéastes qui essayent de redonner vie au cinéma. Et là, c'est pas un documentaire, c'est une fiction. C'est une jeune femme. Son fils a été écrasé par une voiture. Son mari est parti à la recherche de la voiture. Il s'est fait assassiner. Par le mari de la femme qui avait écrasé le gamin. S'ensuit toute une histoire, un broglio, donc je ne vais pas tout vous raconter, mais c'est un film très touchant et qui a autant de répercussions historiques que de répercussions individuelles. Et puis j'ai vu aussi un film d'animation qui plairait sans aucun doute à notre jeune public, mais pas que, c'est Linda veut du poulet, et j'espère bien qu'on vous le programmera. Voilà.
Et toi Martine, est-ce que tu as des petits coups de cœur cannois dont on n'a pas parlé?
Moi j'ai été vraiment enthousiasmée par le film de Wim Wenders, voilà, ouais, qui Perfect va sûrement Days. Sortir, Perfect Days. Prix d'interprétation masculine, et puis par le film de Aki Kaurismäki, parce que ce sont des films qui sont extrêmement doux. Il y a quelque chose En fait, je me disais, je dois être dans l'air du temps parce que les films que j'ai aimés à la compétition sont ceux qui ont été primés. Je ne sais pas comment penser ça, mais je trouve que ces choix, finalement, ils correspondent à quelque chose où on renoue avec une relation apaisée entre les gens, une certaine douceur, une façon de vivre l'instant. Le film d'Akira qui parle d'amour, sur l'amour et pas la guerre. Enfin, il y a aussi quelque chose comme ça. Et j'ai été touchée par ces films-là de la compétition. Sinon, en dehors, il y en a beaucoup. Hein, je ne vais pas tous les passer en revue. Il y a un film qui s'appelle La Grâce, qui est un film russe. Aussi une traversée en voiture aussi et qui mène jusqu'à la mer des Barentes. Voilà. Paysage désolé de Russie.
Mais donc ouais, donc moi j'ai adoré Katie Blues quand on n'a pas parlé ici, qui est un autre film acide, moi qui a été un vrai petit coup de cœur également, voilà, qui raconte l'histoire d'une jeune, c'est un documentaire qui est l'histoire d'une jeune chanteuse américaine concentrée en très proche de la réalisatrice. Il y a une vraie proximité qui se fait dans la mise en scène par tous les deux. On sent qu'il y a une amitié entre la personne derrière et devant la caméra, ce qui donne une certaine sympathie au film et une vraie bonne humeur, je trouve, communicative. En plus de traiter aussi des sujets universels, des phases dans notre vie qu'on a tous connues, c'est-à-dire des phases de doute où ce qu'on aime absolument faire, on n'est plus sûr de vouloir le faire à ce moment-là et on essaie de se reprendre en main pour essayer de vivre avec les choses, avec les choses qui nous passionnent et les choses qu'on aime. Voilà, c'est un film qui parle de ça et des situations, je pense, qu'on a beaucoup vécu au moment du Covid, du confinement, parce que ça a été des périodes de grosses remises en question. Donc je pense que c'est un film qui parlera beaucoup à ceux qui ont pu vivre ces types de réflexions il y a peu de temps ou dans leur vie en général. Donc voilà, c'est un film très touchant et que je recommande vachement. Et j'en ai parlé au tout début de l'émission, mais j'en remets une couche. Hein. Le Justine Triet, faut vraiment, vraiment, vraiment aller le voir. Hein. Je trouve que c'est un petit bijou total. C'est à la fois un vrai enquête, hein, c'est un vrai film noir, hein, moi je trouve. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un mort au début du film, on ne sait pas comment ça s'est passé, et tout le long on va essayer de connaître la vérité. Donc il y a un vrai film d'enquête, mais en même temps c'est aussi un vrai film d'étude de personnages, qui est d'étude sur comment fonctionne le couple entre hommes et femmes, qui traite de plein de sujets différents. Qui n'est jamais manichéen, quoi. C'est surtout ça, quoi. Il y a pas de bon, il y a pas de méchant. Tout est pas noir, tout est pas blanc. Les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Et c'est pour ça qu'il y a la justice et qu'il y a des procès, voilà. Parce que les affaires criminelles sont jamais simples. Et donc c'est un film qui le retranscrit vachement. Donc voilà, je termine en remettant un petit coup sur la Palme d'Or, voilà. Parce que je trouve, sans parler de ce qui a été dit à Cannes, je trouve qu'on n'a pas assez parlé du film et beaucoup plus des propos qui ont été dits pendant le discours, mais je ne veux pas revenir sur les propos. Voilà, donc c'est pour ça que je réinsiste dessus. Donc je ne sais pas si vous avez un dernier petit mot à rajouter sur Cannes avant de nous quitter.
Tu ne veux pas revenir sur les propos parce que tu les...
Ah, tu veux quand même revenir dessus.
Non, mais je veux dire des propos qui ont été sans doute mal interprétés, compris. Oui. Parce que ce qui est... Bon.
Voilà, ça me paraît pas très contestable ce qu'elle dit, mais bon, voilà.
Voilà, c'est ça. Je voulais te faire dire ça.
Voilà. Bah, merci en tout cas d'avoir été avec moi pour parler de ce festival et des films qu'on a vu sur cette semaine cannoise, ou ces deux semaines cannoises. Donc j'espère que je vous retrouverai bientôt pour parler peut-être d'un des films dont on a parlé aujourd'hui, ou d'autres films. Voilà. J'espère en tout cas vous retrouver très bientôt. Et pour mes chers auditeurs, je vous souhaite à tous de très bons films et une très bonne journée. Voilà, au revoir.
Bonsoir.